Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 14 mai 2022. Alors, Germain est avec nous, bien sûr. Salut Germain.
Bonjour Antoine.
Comme un scout fidèle.
Comme un scout.
Hein? Et oui. Ça, c'est une première transition dans cette émission qui est toujours pleine de rebondissements pour parler de la marque Scout, ou disons Scout, que ferait revivre le constructeur Volkswagen.
Effectivement, cette nouvelle nous est un petit peu apparue, est arrivée de nulle part, c'est-à-dire on a appris cette semaine que Volkswagen avait acheté en 2020 les droits sur le nom Scout et on se rappelle
qui appartenait à International.
Oui, on se rappelle que c'était pas mal dans les premiers VUS, donc un authentique 4x4 robuste pour de la conduite hors route, là, quelque chose d'assez rudimentaire.
En fait, International, c'est ça, avait répliqué au succès des Willys, ouais, du début des années 60 avec un Scout, puis après ça le Scout 2 qu'on a vendu jusqu'au début des années 80.
Ouais. Essentiellement là, de 1960 à 1980. Et bon, après ça, on avait rien vu. Mais visiblement, chez Volkswagen, on avait l'intention de faire revivre ça parce, ouais, qu'on s'était procuré le nom en 2020. Et là, ben, le conseil d'administration du groupe Volkswagen a autorisé le projet et à y aller de l'avant avec le développement, premièrement, d'une camionnette et d'un VUS de type robuste, les deux qui seraient 100% électriques, et des véhicules qui ne porteraient pas le logo de Volkswagen. Donc, est-ce que ce serait une sous-marque? Quelle forme ça prendra? On a le temps d'y réfléchir encore.
Ça, c'est assez particulier de constater tout ça, parce que là, comme on va parler un peu plus tard du Jeep Grand Wagoneer, mais on veut pas le vendre comme un Jeep, on veut le vendre comme un Grand Wagoneer.
Et pourtant, la marque Jeep est extrêmement forte.
C'est pas un Ford Bronco, c'est un Bronco.
Même sur un Mach-E, hein, cherche les logos Ford, tu vas chercher longtemps. Donc, on se dissocie tranquillement des grands emblèmes pour créer plein de sous-marques. Mais en tout cas,
Par contre, sur une Ioniq 5, on a planté un logo Hyundai 4x8 sur le devant du capot pour être certain qu'on sache que c'est un Hyundai, mais bon.
Oui, c'est... peut-être qu'on est un petit peu plus fiers en Corée l'est à Dearborn, mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Bon, ça nous rappelle quand même un peu ce qu'on fait chez Rivian, hein, parce qu'on a justement ça, un VUS et une camionnette 100% électrique avec des aspirations hors route, disons ça comme ça. Alors, ce sera intéressant à suivre.
C'est clair que c'est un marché du futur qui va être très important, là.
Oui. Mais ce sera intéressant, franchement, de suivre ça dans les prochains mois et prochaines années, là, parce que j'ose imaginer que ce sera un long processus, là, et que ce n'est pas demain la veille qu'on verra un Scout EV sur nos routes, là.
Bon, Germain, ce week-end, toi et moi, on est allé faire un tour du côté de Carlisle pour s'amuser avec nos vieilles voitures d'été. Mais une voiture d'été, par définition, c'est une voiture que tu n'utilises pas tous les jours.
Oui.
Et la Toyota BZ4X, 4 roues motrices, électrique...
Je me demandais où tu t'en allais, mais oui, OK.
On peut presque la considérer comme une voiture d'été, considérant l'annonce qu'on a faite cette semaine. Et pour moi, c'est pas nécessairement une voiture que j'utiliserais pour mes balades du week-end.
Non, effectivement, on le sait, Toyota débarque à peu près à ce temps-ci avec un premier véhicule électrique, un véhicule qui est très attendu, le BZ4X. Notre collègue Louis-Philippe est allé le conduire il y a quelques semaines. On a pu le voir au salon du véhicule électrique. Bref, l'engouement est très, très, très présent pour ce véhicule-là.
Ouais.
Et cette semaine a circulé une information qui a été confirmée par le constructeur, c'est-à-dire que lorsque le mercure descend sous zéro, une recharge pourrait voir son temps être étiré. Jusque là, moi, j'ai pas de malaise, j'ai pas de problème. C'est un phénomène courant avec les véhicules courants. C'est un phénomène courant avec les véhicules électriques. Là où je suis un petit peu moins à l'aise, c'est que le véhicule ne pourrait pas être chargé en bas de moins 20. Pour moi, c'est un réel problème parce que au Québec, il arrive qu'il fasse moins 20, puis des fois même moins 30. Hein?
Ça veut dire, on regarde la météo, on demande à Colette si on peut conduire notre voiture le lendemain. Là. C'est un peu ça.
Ben, c'est à peu près ça. C'est
vendeur comme information.
Non, pas vraiment. Sachant que le Québec est un peu une belle niche pour l'automobile électrique, qu'on est à l'avant-garde par rapport au reste de l'Amérique du Nord. De voir qu'on développe un véhicule pour la Californie, je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu plus déplorable. Mais bon.
Ce qu'on comprend, c'est que si tu achètes ce véhicule-là, Faut que tu le recharges dans un garage.
Oui, dans un garage ou que tu prévois tes recharges, mais bon...
Non, ça commence à être de la gestion...
Déjà que c'est un peu de gestion, là. Voilà. Fait que je sais pas si on va corriger le tir. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça chez Toyota. J'allais dire que c'est une patate chaude une patate congelée qu'on a entre les mains.
Est-ce que t'as pas l'impression, justement, que Toyota lance ce véhicule-là.
Trop tôt?
Non, mais parce qu'il faut le faire, parce qu'on est obligé d'en avoir un, mais c'est pas nécessairement ce qu'on veut faire.
Depuis qu'on a des automobiles électriques sur nos routes, Toyota nous casse les oreilles en nous disant on veut pas en vendre, ça nous intéresse pas, on mise sur l'hybride, c'est ça la technologie intéressante. Ben, ils ont des contraintes à respecter, on arrive effectivement avec un premier véhicule électrique.
Le VZ4X est là pour leur permettre de continuer à vendre des Tundra, là.
Puis des RAV4 à essence, puis des Highlander à essence, puis tout ce que tu veux.
Bon.
En tout cas, l'émission, la présente émission du Guide de l'auto à la radio se termine à 11h, à 11h30 sur TVA. Ce sera l'émission de télé du Guide de l'auto. Et on présente quoi cette semaine, Antoine?
Enfin, on va parler rapidement de l'histoire de la Chevrolet Bolt. En fait, on va revenir sur les débuts de la Bolt jusqu'au déboire du rappel pour expliquer un peu ce qui s'est passé. On fait l'essai, Gabriel et moi, du Jeep Grand Wagoneer dans sa version la plus luxueuse, série 3, 132 000 $, moteur V8 6.4 litres. Évidemment qu'on va faire mention du moteur Hurricane qui va être disponible prochainement. Mais on va aussi regarder avec Mathieu Roy les 7 écrans qu'on retrouve dans un Jeep Grand Wagoneer.
Oui, monsieur,
parce que je t'avoue que moi, 7 écrans, tu me perds totalement. Là, oui. C'est beaucoup trop. Là. J'ai même pas le goût d'analyser ça. Ça n'a aucun bon sens. Mathieu... est un peu d'accord avec moi. C'est trop ce comme passé.
Puis on s'était passé à la réflexion quand on avait parlé du Jeep Grand Cherokee, l'écran pour le passager. À quoi ça sert? Des écrans à l'arrière, sachant que les enfants ont un iPad, ça sert à quoi? C'est plein de bonnes questions, là.
Oh oui, c'est ça. Tu veux dire, pour moi, c'était logique il y a 20 ans dans une fourgonnette Montana Warner Brothers Edition où
Bon, avec le lecteur VHS entre les deux sièges.
Bon,
là.
C'est ça. Mais là, c'est sûr qu'on est un peu ailleurs. Puis on fait une espèce de petit exercice comparatif rapide entre une Accord hybride et une Toyota Camry hybride parce qu'on reçoit une question à ce sujet-là. Alors, on va répondre à cette question-là. Vous pourrez réécouter l'émission sur le site du Guide, sur ma page YouTube, Auto Joubert. Bref, elle est disponible à plusieurs endroits. Et ça sera rediffusé aussi, le Guide de l'auto, au cours de l'été sur TVA Sport.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation. Le Guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, on est allé conduire cette semaine des véhicules millésimés 2022 qui arrivent sur le marché au moment où on se parle. C'est un peu spécial.
Oui, au moment où d'autres véhicules millésimés 2023 arrivent aussi. Dans mon cas, j'ai conduit la Volkswagen Jetta 2022, donc changement de mi-génération. Le modèle est arrivé en 2019.
Retouche esthétique, puis un nouveau moteur.
Retouche esthétique, oui, c'est assez subtil, faut avoir l'œil aiguisé pour le constater. Pour ce qui est du moteur, effectivement, tu le mentionnes, on passe d'une cylindrée de 1,4 litres à une cylindrée de 1,5 litres.
Ça sent le muscle.
Essentiellement la mécanique du Taos qu'on retrouve et c'est 85% de composantes qui sont les mêmes que dans le 1.4.
Oh, oui, oui.
Donc, bref, c'est pas...
On a modifié l'alésage du bloc, puis c'est tout.
C'est pas un grand changement, disons ça comme ça. Cockpit numérique, pour moi, c'est peut-être le plus gros changement là dans l'habitacle, ça paraît. Donc, bye-bye les aiguilles traditionnelles. Tout est...
De série pour tous les modèles.
Oui, alors qu'on l'avait juste pour l'Exact Line auparavant.
De toute façon, il n'y a rien de plus logique là-dedans. Ça coûte moins cher à fabriquer ça que des cadrans physiques.
Bon, alors vois-tu, en plus, et je me réjouis que Volkswagen continue d'offrir la boîte manuelle. Pour moi, c'est une, c'est une bonne chose, même si on sait que le
marché est de moins en moins là.
Le marché est en déclin. Puis on l'offre sur les deux des trois versions et sur la GLI. Quand on regarde un peu ce qui se fait ailleurs, j'écrivais cette semaine un texte sur la Kia Forte, qui est un véhicule concurrent de la Jetta. Ben, la boîte manuelle, on l'a seulement sur une version de base, dépouillée de tout équipement. Donc,
ce qui est encore pas pire, parce que sur une Civic, tu ne l'as même plus.
Tu ne l'as même plus. Alors, bref, on peut quand même saluer l'effort de Volkswagen de continuer de l'offrir. En même temps, on comprend qu'une partie de la clientèle de Volkswagen carbure justement à la boîte manuelle.
Et c'est la seule offre pour une voiture abordable chez Volkswagen qui peut encore offrir ça. La Golf étant plus là.
Oui, exactement.
Puis sinon, c'est un festival de VUS tous plus excitants les uns que les autres.
Oui. Et pour moi, oui, la Jetta, bon, elle est plus grosse qu'avant, plus américanisée qu'avant, mais... considérant l'état actuel du marché,
Elle est quasiment le fun.
Elle fait bien le travail. Elle est quasiment belle. Oui, ça va bien. Ouais. C'est une excellente routière. C'est confortable. Ouais. Le coffre a toujours été énorme sur une Jetta et il l'est encore maintenant. Et pour moi, un secret bien gardé, c'est la GLI. Qu'avec un peu à 32 000 et des poussières, on a une voiture qui est performante, qui est très belle. Et franchement, à ce prix-là, c'est très difficile d'obtenir un meilleur rapport prix-puissance, équipement et tout ce que tu veux. C'est plus qu'un compromis, c'est juste une très belle offre. Là.
Et on est moins cher qu'une Civic SI. Là.
Et moins cher qu'une Civic SI, moins cher qu'une WRX.
L'Entra N.
On est moins cher que tout et on en offre beaucoup, je trouve. Franchement, la GLI mérite qu'on s'y attarde. C'est peut-être même un peu moins radical qu'une GTI. Je peux très bien imaginer là, deux parents avec deux enfants vouloir peut-être un peu d'agrément de conduite et rouler à l'année en GLI avec un support sur le toit. Puis pour moi, c'est tout à fait envisageable. Là. Alors, je pense qu'elle n'est pas considérée à sa juste... valeur.
Oh, oui.
De ton côté, tu as conduit un véhicule qui n'est pas attendu du tout, le Ford F-150 Lightning. Enfin, une première vraie camionnette 100% électrique.
Ouais, de pleine grandeur. Le Rivian...
Oui, mais on ne l'a pas ici. Là.
On ne l'a pas ici, mais le Rivian est déjà vendu du côté des États-Unis. Il va arriver éventuellement. Puis, je veux dire, je mets de côté le Hummer, même si c'est une camionnette, parce que c'est pas un véhicule pratico-pratique. Autrement dit, c'est un produit un peu plus de niche. En ce qui me concerne.
De grosses niches.
Mais... Oui. Bon, évidemment, on est allé du côté du Texas pour mettre à l'essai cette camionnette-là. Là où les camionnettes sont super populaires, il y en a partout. Le trois quarts des pick-up qui sont vendus là-bas sont blancs. Fait que c'est pas très original comme paysage automobile. Mais il en demeure pas moins que le Lightning, même là-bas, même si l'essence est à 1$ le litre ou 3,80$ le gallon, c'est très, très, très alléchant une camionnette électrique. Puis évidemment, le véhicule, premièrement, moi, ce que j'aime, c'est que on est très près d'un F-150 traditionnel en termes de look. La ceinture lumineuse qui contourne la calandre est probablement la signature qui te permet facilement d'identifier le véhicule comme un électrique, mais sinon, ça a tout d'une camionnette F-150 traditionnelle sur le plan esthétique et même à l'intérieur, mis à part, les écrans où, là, évidemment, tu as de l'information relative à au rendement du véhicule électrique plutôt que des cadrans traditionnels ou un rendement de véhicule à essence. Mais sinon, c'est très semblable.
Il n'y a pas de RPM.
Bon. Mais le véhicule, moi, je le trouve très intéressant sur le plan visuel. Maintenant, c'est sûr que tout ce qui se trouve en dessous du véhicule, ça diffère. On a quand même le châssis modifié du F-150. On a pris le châssis initial du F-150 qu'on a retravaillé pour pouvoir évidemment lui adapter une suspension indépendante à l'arrière et pour pouvoir y glisser les batteries. Deux tailles de batteries, 91 ou 131 kWh. Et je peux te dire un truc, c'est quand même assez intéressant. Moi, j'ai conduit évidemment la version la plus luxueuse. Il y avait un modèle de base là-bas avec la batterie de plus petite autonomie qui est à 375 km, sans quoi on passe à 485 ou 515 km selon la version, parce que si tu optes pour le modèle Platinum qui est le plus luxueux, il est un peu plus lourd, il y a des roues de 22 pouces, il y a un plus grand impact au sol, il y a un peu plus de poids, donc l'autonomie baisse un peu par rapport à une version XLT. Si tu prenais la grosse batterie, qui est une option, soit dit en passant, de 13 380 $ canadiens, donc à considérer. Là.
Oui, c'est substantiel là, comme ouais. Prix. Là.
Alors, il faut comprendre ceci. Il y a quatre versions de disponibles. Il y a la Pro, il y a la XLT, il y a l'Aria et le Platinum. La Pro n'est offerte qu'aux entreprises, au parc. Tu ne peux pas acheter ça en tant que
consommateur individuel.
C'est
là.
Ça, exactement. Malheureusement, parce que ce véhicule-là, à 58 000 $ pourrait, dans un autre contexte, être éligible aux crédits gouvernementaux et ferait en sorte que la version XLT le serait aussi. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement, parce que...
Vraiment, on a des fins stratèges, hein, chez Ford.
Ben, je pense qu'on s'en fout, tout simplement.
Oui.
L'idée, ça a été de toute façon, on sait qu'on va les vendre de toute manière. Et bon, après donc tu as la version XLT, tu as la version Laria et Platinum. Donc les trois premières viennent avec une batterie de 91 kWh. Tu prends l'option de la batterie de 131 en option, mais qui est offerte de série sur le modèle Platinum, qui lui coûte 110 000 $. Alors, c'est énormément d'argent, mais c'est le nec plus ultra. Et moi, j'ai fait le calcul financier entre une version Platinum à essence et une version électrique. Si tu finances sur 6 ans, si tu loues sur 4 ans, il y a à peu près un écart de 500 $ par mois avec ce véhicule-là, parce que l'écart de prix est d'à peu près 23-24 000 $. Donc, il y a un écart de 500 $ par mois, mais que tu vas mettre en essence, bien évidemment.
Oui.
Donc, c'est sûr
parce qu'en ce moment, 500 $ d'essence, quand on a une camionnette pleine grandeur...
Non,
là,
c'est très facile.
C'est très, très facile. Là. C'est deux pleins et demi.
Deux pleins et demi dans le mois, là, tu fais ça très facilement.
Ouais.
Alors, je pense que ça c'est une option qui est très intéressante. Bon, évidemment, la disponibilité va être un problème. On sait que c'est 40 000 unités qui seront fabriquées en 2022. On espère être capable de prendre le beat et d'en fabriquer 150 000 en 2023, en 2024, en 2025. Bon, mais c'est l'objectif de Ford actuellement. On a 200 000 commandes de placer. On a arrêté de prendre des commandes pour le moment.
Donc, l'engouement, il est justifié.
Ah, absolument.
Et le produit est au rendez-vous.
Bon, c'est silencieux. Que tu remorques ou que tu remorques pas, c'est très confortable comme véhicule. La maniabilité, elle est surprenante parce que tu as une suspension indépendante à l'arrière. Alors, j'ai beaucoup aimé conduire ce véhicule-là, mais en contrepartie, c'est très lourd. Donc, tu le sens, là, c'est près de 5000 livres, une version Platinum. La batterie à elle seule pèse autour de 1500 livres. Le véhicule peut remorquer 10 000 livres, c'est quand même pas rien. 5700 dans le cas d'une version à petite autonomie. Mais le véhicule est capable d'offrir un rendement super intéressant. J'ai fait une moyenne de 27-28 kWh de consommation à l'âge. Alors, c'est quand même pas si mal. C'est pas beaucoup plus qu'avec une IONIQ 5. Alors, tu sais, moi, j'ai fait... C'est franchement... Une IONIQ 5 est autour de 21-22, ouais. Avec un F-150 à 27-28. Bon, évidemment, si tu recharges ça dans ton garage sur une borne de niveau 2, 32...
T'en as pour la semaine, là.
Ça te prend 20 heures.
Ouais.
Mais Ford peut te vendre un système qui va te permettre de recharger plus rapidement. Évidemment, ça te prend une installation électrique adéquate à la maison, mais ça va te permettre de te recharger à la maison en 8 heures.
Ça, c'est intéressant.
Ça, c'est intéressant. Et tu peux aussi te... Puis évidemment, bon...
Parce que plus les autonomies augmentent...
Il faut que
t'aies
vidé la batterie au complet, là.
Ouais.
L'idée, c'est pas de la vider à tous les jours, mais si... Ça va te prendre 20 heures à partir de zéro, mais si
personne n'atteint le zéro, je comprends.
C'est ça, c'est très rare. Alors, mais l'autre truc qui est intéressant, c'est que tu peux t'installer un système à la maison qui va te permettre d'inverser la charge de ton F-150, c'est-à-dire d'aller puiser l'énergie de ta batterie pour alimenter ta maison en électricité si jamais tu as une panne électrique ou ton chalet ou peu importe. Bon, c'est un système qui risque de coûter autour de 5 000 $, pas les prix exacts, mais ça va te permettre de transformer ton F-150 en génératrice. Et un truc que j'ai bien apprécié, comportement, l'habitacle, tout ça, ça va, mais ce qu'on appelle le frunk, donc autrement dit, le coffre avant, qui contient 400 litres de volume. C'est la grandeur du coffre d'une Honda Accord, là, littéralement.
Mais donc, on lève le capot, puis on a un bel espace de chargement à l'avant.
Un bel espace de chargement multifonctionnel avec des prises, avec des lumières à DEL. Tu peux brancher plein d'accessoires. C'est franchement intéressant. C'est vraiment un camion très, très, très convaincant.
Que certains demi-sous-sols.
Oui, c'est ça. Non, c'est très convaincant et on comprend pourquoi on va se les arracher sur le marché. Et attendez-vous d'ailleurs à qu'il y a un marché noir puis qu'il y a de la surenchère, ça c'est sûr. Puis je veux juste terminer en mentionnant que aussi bien que le public n'ait pas accès à un crédit gouvernemental pour ce véhicule-là, les entreprises auront droit à un crédit de 10 000 $ pour
avec le
versions.
Programme éco-camionnage, c'est ça?
C'est ça, exactement. Ce qui est un peu comique, c'est que tu peux avoir un accès à un crédit au Québec, mais pour la version la plus luxueuse, tu vas payer une taxe de luxe au fédéral. Donc, ça finit par s'annuler, là.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Germain, il y a quelques années, jusqu'à il y a quelques années, on pouvait lire des textes qui faisaient sourire dans le guide de l'auto parce qu'on avait un collègue qui s'appelait Alain Morin qui a décidé de prendre ou de retourner à ses anciens amours et de retourner à son ancienne carrière essentiellement. Donc, il ne fait plus partie de l'équipe. Mais ça ne signifie pas pour autant qu'il n'est pas toujours intéressé par le monde de l'automobile. Et
parenthèse, là, si vous avez des vieux guides de l'auto à la maison, quand je dis vieux, là, jusqu'à il y a quoi, 3 ans peut-être, là, tout au plus, allez retrouver les textes. Allez retrouver les textes d'Alain Morin.
Ouais.
Oui, il y en a. La plupart font sourire.
La plupart font sourire et tu n'as même pas besoin de regarder qui l'a écrit pour comprendre que c'est lui. Fait que c'est bien plate qu'on l'ait perdu. Mais là, on le retrouve l'instant d'un moment pour qu'il nous parle d'une voiture que personne ne connaît. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on l'a appelé. Alain, salut.
Bonjour.
Salut. Écoute, on peut sortir le gars du char, mais on peut pas sortir le char du gars.
Non, exactement.
Et le gars, en l'occurrence, c'est toi. Ces dernières années, tu as été documentariste pour la Fosse Mobile. Probablement que personne n'a entendu parler de cette voiture-là.
Et tu vois, moi, ma question, c'était de que c'est?
Oui, tout simplement.
Qu'est-ce que c'est ça, la Fosse Mobile? Ben, premièrement, il faut savoir que c'est la première voiture à essence qui a été construite au Canada. La première voiture à essence fonctionnelle qui a été construite au Canada. Il y a peut-être eu d'autres...
On se remet en quelle année, là?
On est en 1897.
Okay. OK, t'étais jeune à ce moment-là.
Oui.
OK.
Oui. Ben, j'étais à peine adolescent.
Ouais, c'est ça.
Mais, c'est ça. Et le... Un petit peu, il y a quelqu'un qui passe sa moto juste à côté.
D'accord.
Oh. OK. C'est ça. En 1897, George Foss, qui habitait à Sherbrooke, donc ça s'est fait chez nous, pas loin, à Sherbrooke,
okay.
Il avait 20 ans, très jeune. Il avait déjà un atelier de réparation de bicyclettes. Le gars, c'était déjà un électricien accompli.
OK.
Il avait un bagage technique très, très avancé. Et il y avait, lors d'un voyage à Boston, pour son pour acheter des pièces pour son atelier, il a vu une voiture à vapeur. Électrique.
Okay.
Une voiture électrique. Il voulait en faire l'essai. Pour une heure, c'était $4. À l'époque, $4 pour une heure.
C'était beaucoup d'argent, là.
C'était beaucoup d'argent. il a quand même décidé de se payer un peu de fun.
Mais une heure en véhicule électrique, il y a 125 ans, c'était quelque chose aussi, là.
Ben, c'est ça. C'est que ça a duré une demi-heure, puis après ça, les batteries sont tombées à plat.
OK.
Fait que sur le chemin du retour...
Comme avec une IMIEV 2012, finalement.
Antoine est en forme, hein?
À peu près.
C'est ça, OK.
Mais c'est ça, c'est que en ce chemin de retour, il s'est dit, je peux faire quelque chose de mieux que ça, mais avec un moteur à essence, de même, on n'aura pas de problème de batterie.
OK.
Et c'est comme ça qu'est née la Force Mobile.
Est-ce que lui avait vu, par exemple, des voitures comme comme Ford? Parce que Ford n'était même pas là, dans le fond, à ce moment-là. Là.
Non. Ford, à ce moment-là, était encore là.
À l'étape de projet. Même ça, pas, là, en fait.
T'es même pas encore au Ford Model A, là.
Non, non.
Avant ça, là, je pense qu'à ce moment-là, il était encore électricien qui part à Détroit. Là,
OK, parfait.
Mais, donc là, il est de retour de son périple à Boston, décide de faire une voiture, mais qui serait avec un moteur à essence. Il la construit. Après ça, qu'est-ce qui se passe?
Après ça, il l'a conduit dans les rues de Sherbrooke quelques années. Et c'est documenté, c'est écrit dans des journaux de l'époque. Évidemment, ça a fait sensation à Sherbrooke. Là. Et il y a des gens qui étaient terrorisés quand ils ont vu approcher cette voiture-là, qui venait du bruit, et qui se déplaçait toute seule. On n'avait jamais vu, avant ça, une voiture, quelque chose, un objet se déplacer tout seul.
Sans chevaux, là, oui.
Sans chevaux. Et c'est pour ça qu'en anglais, on parle d'un horseless carriage, une voiture sans chevaux.
Ouais.
Et il y a des gens qui étaient carrément terrorisés. Il y a des gens qui pensaient que c'était le diable en personne. Fait que il y a des gens...
Finalement, ce n'était pas ça. C'était pas le diable.
Ce n'était pas le diable. C'était un simple être humain. Et ça, il s'est promené à Sherbrooke avec pendant 3 ans. Il est déménagé en 1902. Donc, il s'est promené 3, 4 ans, 5 ans avec sa voiture. Ensuite, il est déménagé à Montréal. Et là, il a vendu sa voiture pour 75 $.
Mais entre-temps, il n'a pas non plus assemblé d'autres véhicules. Il n'en a pas fait le commerce. Il n'a pas été un industriel de l'automobile.
Non. À l'époque, il voulait pas. Le jour où il a sorti sa voiture, apparemment la même journée, il y a un banquier qui l'aurait approché.
OK.
Et qui était prêt à financer la mise en production, mais il a refusé parce qu'il se trouvait trop jeune, il n'avait pas l'expérience, il ne voulait pas non plus gérer trop d'employés. Fait que c'était un
accomplissement personnel, puis ça s'arrêtait là.
Exactement. Okay. Puis même à l'époque, il n'avait probablement pas réalisé ce qu'il était en train de créer.
Oui, parce que le monde de l'automobile n'existait même pas, dans le fond. C'était l'industrie n'était pas là encore.
Non. Il y avait beaucoup, beaucoup de manufacturiers, surtout aux États-Unis, mais qui produisaient 5-6 voitures, puis après ça, ils faisaient faillite ou ils changeaient d'orientation.
Puis il faut se remettre à l'époque aussi, j'imagine, où il n'y avait pas de communication, c'est-à-dire que toi, en tant qu'individu qui vivais à Sherbrooke, tu n'étais pas nécessairement au courant de ce qui se passait à Los Angeles, à Détroit tout le temps, là.
Exactement. On pense que George Foss était au courant de ce qui se passait quand même, parce qu'il y avait quand même des publications à l'époque, qui était destiné aux quelques illuminés qui s'intéressaient à la technique, non pas à l'automobile, mais à la technique. Il y avait déjà des moteurs qui existaient pour faire fonctionner certaines machineries dans des fermes. De Dion Bouton avait créé un moteur qui a été reproduit à plusieurs milliers ou je ne sais pas combien d'exemplaires sous licence. Fait qu'on pense qu'il a pu avoir un moteur de Dion Bouton sur sa voiture. En tout cas, on n'est pas sûr. Mais il existait déjà des choses à l'époque. Il existait déjà des moteurs. Là, et on dit aussi, il y a aussi une rumeur qui dit qu'il aurait fabriqué son propre moteur.
Ce qui est quand même quelque chose, là.
Ce qui est quelque chose, puis ça me semble quand même assez...
plausible?
Difficile à croire, parce que la voiture a été fabriquée durant l'hiver 1896-1897.
OK.
Donc, en quelques mois, est-ce qu'il aurait pu concevoir une voiture et un moteur et le faire fabriquer et que ce soit fonctionnel? C'est difficile à croire, mais c'est une des
possibilités. Oui, parce que t'envoies ta voiture se faire restaurer aujourd'hui, puis ça prend 3 ans, puis les gars, ils ont tout le temps des délais, puis les pièces n'arrivent pas. Fait que je me dis que dans ce temps-là...
Mais en même temps, c'était très simple. Là. Il a coulé un bloc en fonte, puis ça a fini là.
Oui.
Non, mais c'est pas... Non, mais OK. Fait que la thèse...
L'allumage, oui, bien sûr, je comprends. Là.
Mais la thèse qu'on a utilisé un moteur qui provenait d'ailleurs, en l'occurrence, de Dion Bouton, ça serait plus plausible.
Ben, selon moi.
OK, parfait.
Et là, tu nous mentionnais, bon, on roule un petit peu avec la voiture à Sherbrooke, déménage à Montréal, vend la voiture, 75 $. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Rien.
En fait, il s'est passé plein d'affaires, mais là, on le sait pas. C'est ça. Hein?
C'est ça. La voiture n'a jamais été revue. Jamais, jamais.
La voiture n'a jamais été revue.
Donc, aucune publication qui l'aurait documentée d'une quelconque manière. On a perdu la trace de cette voiture-là.
On a perdu la trace de cette voiture-là.
Elle s'est retrouvée dans le fossé. Dans
le fossé? Peut-être. Plus probablement, elle s'est retrouvée... On a peut-être enlevé le moteur pour une application agricole. Puis on s'est débarrassé du reste.
Peut-être que c'est des chevaux qui ont fini par l'attirer. Puis ouais, c'est ça.
Puis peut-être c'est ça.
Le retour à la terre qu'on appelle.
Ouais, c'est ça.
Mais là, on est à la radio, Alain, évidemment. Toi, tu l'as vu de près. Tu as suivi le processus de recréation de la voiture. Puis on y reviendra. Mais décris-nous la voiture. À quoi ça ressemble? C'est gros comment?
Bien là, je pense que d'abord, il faut expliquer que cette voiture-là a été pas reconstruite.
On a fabriqué
une réplique de cette voiture-là. Là.
C'est ça. Le petit-fils de George Foss, Ron Foss, il est maintenant à sa retraite, et il a décidé de reproduire la voiture de son grand-père.
Et lui avait suffisamment d'archives pour être capable de recréer la voiture avec une exactitude intéressante?
Oui et non. Il existe à peu près 5 ou 6 photos de la voiture.
OK.
On ne voit jamais le moteur. Il n'y a aucune des photos qui montre le moteur.
OK.
Mais il y a 5 ou 6 photos, naturellement, avec le grain de l'époque. Là.
Ouais.
Mais on peut...
Il n'y avait pas d'iPhone général, 13, non? On n'était pas rendu là?
Je te dirais plus iPhone 1. Là. Et avec ça, ils ont pu déterminer les lignes générales. Et... Après avoir construit sa voiture, George Foss est devenu consultant pour une marque américaine du Massachusetts qui s'appelait Crestmobile.
OK.
Et dans un musée aux États-Unis, il y a une Crestmobile 1901 qui ressemble étrangement à la Foss Mobile.
Ah oui, OK.
Et là, et le petit-fils, Ron Foss, a passé une journée dans ce musée-là à prendre un paquet de mesures, prendre des milliers de photos. Et avec ça, ça a donné vraiment là, une bonne idée de ce que pouvait être la Foss Mobile. Elle a été recréée et on dit qu'elle est ressemblante à 90% à peu près.
Parce qu'ils ont mis un L4 dedans.
À l'original.
Non, mais
oui,
OK.
Oui, exactement.
Mais quel type de moteur on a mis à bord de cette voiture-là?
C'est un cylindre qui fait 4 chevaux.
Mais fallait quand même le créer, ce moteur-là? Est-ce qu'il provient d'ailleurs? Ou...
Non, OK. Là, tu parles du moteur actuel, là?
Oui.
Le moteur actuel a été vendu par un collectionneur américain qui en avait un.
OK. OK, qui serait un moteur qu'on utilisait sur les Crestmobile.
Qui est un moteur d'époque. On ne sait pas qui est utilisé sur une Crestmobile ou sur quoi.
Okay.
Mais c'est un monocylindre aussi.
Oui, c'est oui. Monocylindre, 4 chevaux. Maton 2, il fait plus que ça.
Oui.
Mais et toutes les pièces de la voiture proviennent de voitures de l'époque ou ont été recréées selon les techniques de l'époque.
Comme quoi, par exemple?
Ah, écoute, le châssis, toute c'est un châssis tubulaire qui a été donné par le même monsieur qui a vendu le moteur. Il y avait aussi un châssis qui appartenait à une voiture des années 1898-99, à peu près, on ne sait pas trop, qui était tout rouillé, tout déformé, mais ils ont quand même été capables de tout redresser ça et de faire le châssis de la fosse mobile.
Quand même.
Oui. Même chose pour la boîte comme telle, la carrosserie, là, si on veut, là, a été donnée aussi par ce monsieur-là.
Oui, vas-y.
Non, mais c'est ça. Et là, c'est comme ça qu'ils ont pu vraiment recréer une voiture. On peut vraiment dire qu'elle est d'époque, là. Oui, il y a eu des pièces nouvelles, tout ce qui est engrenage, chaîne, les lames de ressort, tout ce qui est alimentation électrique en essence, tout ça, ça a tout été recréé.
Pour qu'on essaie de se l'imaginer, là, ça, c'est une voiture à toit ouvert, une monoplace, une biplace?
On peut dire que c'est une biplace. C'est un roadster.
OK.
Biplace, c'est très, très petit. Hein? C'est très...
À 4 chevaux... à 4 chevaux, il ne faut pas que ce soit trop gros, là.
Non, non. Mais rappelons-nous, hein, à l'époque, là, c'était la voiture la plus puissante au Canada.
Wow. Est-ce que c'était parce que c'était la seule?
Oui.
Dans un premier temps, oui. Et dans un deuxième temps, oui aussi.
Et écoute, deux personnes là, de petite taille là, sont assises très, très collées sur le siège.
OK.
C'est aussi très représentatif de l'époque. Tu regardes des photos de ces années-là, les gens n'ont pas de surplus de poids ou très, très peu.
OK.
Alors, à l'époque,
est-ce qu'il y a un message que tu essaies de nous faire passer, Alain?
Ben, écoutez, si je fais pour vous faire.
Ah, d'accord.
Je n'ai plus rien.
Est-ce que le véhicule est fonctionnel? Est-ce que je comprends que ça relève plus de l'artisanat maintenant que d'un bien industriel, mais est-ce que le véhicule peut fonctionner?
Il pourrait fonctionner. Le propriétaire du véhicule ne veut pas le faire fonctionner parce que on a juste un moteur.
Ah oui.
Et si jamais il arrivait quelque chose, le moteur est fonctionnel, on sait qu'il tourne, il n'y a pas de problème, mais il ne veut pas le tester.
Si oui, ouais, je comprends. Puis là, cette voiture-là se trouve au Québec. Le petit-fils de M. Foss vit ici, puis là, il veut en faire des expositions, quoi.
Non, non, pas du tout. Le petit-fils habite en Ontario.
OK.
Burlington. La voiture a été construite là-bas.
OK.
Avec l'aide de Legendary Motor Cars. C'est un atelier qui se spécialise dans la restauration de voitures anciennes.
OK.
Qui ont travaillé sur le projet. La voiture est encore à Burlington et elle va être au Québec en août, à Sherbrooke. Elle revient sur ses terres à Sherbrooke,
okay,
au marché de la gare, les 19, 20, 21 août.
OK. Parce que
ensuite, elle va se retrouver au Musée de l'Automobile canadienne à Oshawa.
OK, parfait. OK. Qui est un musée quand même assez intéressant. Il y a plein de trouvailles là-bas. Moi, je n'avais pas connaissance de ce musée-là jusqu'à il y a quelques années. Je me suis retrouvé là par hasard. C'est pas un musée grandiose visuellement, mais il y a plein de petits trucs bien intéressants.
Des petites curiosités.
Puis tu sais, on n'a pas idée à quel point l'industrie automobile canadienne, à une certaine époque, était beaucoup plus florissante qu'aujourd'hui.
Oui.
Aujourd'hui, c'est l'histoire de 5 usines syndiquées, bien en fait 3. Et je pense que là, tout va se passer dans l'électrique dans les prochaines années. Fait que c'est plus la même chose qu'à une certaine époque. Mais...
Non, mais...
corrige-moi si je me trompe, lorsqu'il y avait eu un salon de l'auto à Sherbrooke il y a quelques années, vous n'aviez pas un kiosque qui parlait de l'évolution de cette voiture-là?
Oui. Oui, il y avait un kiosque. La voiture était pas prête à ce moment-là, fait qu'on n'avait pas de, on pouvait pas montrer la voiture, mais il y avait des photos,
des esquisses, c'est ça.
De la documentation. Il y avait des photos de l'époque. Il y avait de la documentation aussi pour les gens qui étaient intéressés là. Les gens étaient même à Sherbrooke, hein, les gens connaissent pas cette histoire-là.
Ben, c'est très méconnu, effectivement.
Oui, puis si tu demandes aux gens quelle était la première voiture à exister au monde, ben ils vont pratiquement tout le monde va dire la Ford Model T qui est apparue en 1908.
Mais il y en a eu bien avant.
Il y en a eu bien avant ça. Puis quand tu dis aux gens que la première voiture à essence à être créée au Canada, c'était à Sherbrooke, ben les gens sont, mon Dieu, sont tous surpris.
Oui.
Et en parlant de Ford avec son Model T, Henry Ford avait proposé à George Foss un partenariat.
Ah oui?
Oui.
Le partenariat, c'était « je vais te racheter ton auto pour 80$ au lieu de 75$ » ou...
Non, c'était vraiment... Il avait vraiment offert à Foss de venir travailler avec lui au début des années 1900. Là. Encore okay. là, c'était pas le Henry Ford, là... multimillionnaire.
OK, c'est bien avant qu'on fabrique la Model T.
Et George Foss avait pas vraiment aimé le personnage et trouvait que sa voiture à lui, la Foss Mobile, était mieux, et était plus moderne, était mieux construite que ce que Ford faisait à l'époque. Il n'y avait pas eu de suite.
Il trouvait que l'écran d'infodivertissement était mieux conçu, là.
Oui, exactement. Sa voiture était mieux connectée.
En terminant, Alain, glisse-nous un mot sur le rôle que tu as eu dans ce projet-là, parce que, tu n'es pas un membre de la famille, contrairement au petit-fils qui, lui, a mené le projet, mais tu as eu un rôle important.
Bien, important, je le sais pas, c'est pas à moi d'en juger. Moi, ben, j'ai suivi le projet depuis le tout début. J'ai écrit des articles sur l'évolution du projet. J'ai fait un peu de traduction pour la famille. J'ai facilité aussi certains liens avec la confrérie des journalistes automobiles. Mais c'est ça. Mon rôle s'arrête là. Moi, je me suis intéressé à ce projet-là parce que j'ai l'intention d'écrire un roman.
OK.
Un jour sur... Cette voiture-là, là, tu sais, là, un gars de 20 ans, là, en 1897, qui décide de créer une voiture. J'espère que ça va se concrétiser. C'est sûr que là, j'ai pas de temps pour faire ça. Mais comme ça, je me suis intéressé au projet. Puis,
mais toi, tu as eu vent de cette voiture-là. De quelle façon? Je sais que tu t'es natif de cette région-là, mais quand même...
Moi, la première fois que j'en ai eu, conscience de la Foss Mobile, c'était en 1997. Il y avait eu une cérémonie à Sherbrooke,
okay,
commémorant les 100 ans de la voiture. Et wow. À ce moment-là, il y avait eu un monument qui avait été érigé à l'endroit où se trouvait l'atelier.
Ça, c'est juste à côté de la statue Alain Morin, hein, c'est ça?
Oui, exactement.
Exactement. Dis oui en plus.
Une statue grandiose.
Oui. Ah oui.
Présentement, on l'a enlevé.
OK. Ouais.
Mais même le monument a été enlevé aussi parce que la ville de Sherbrooke refait tout ce coin-là. C'est, pour les gens de Sherbrooke, c'est sur la rue des Abénaquis.
OK.
Et le monument reviendra ou non?
Le monument va revenir, on ne sait pas où exactement. Mais c'est ça, c'est comme ça que j'ai entendu parler. Puis à l'époque, les revues de voitures anciennes en avaient, du Québec, en tout cas, en avaient parlé. Puis c'est comme ça que j'avais été au courant qu'il y avait eu cette voiture-là
okay.
en 1897.
Ben Alain, je te laisse aller rédiger ton roman, puis on va attendre ça de pied ferme. Fait que je te donne une couple de jours, là.
Ah bon, ben parfait, merci. Moi, je voulais finir l'après-midi.
Bon. Et entre-temps, peut-être un peu de rédaction de véhicules prototypes qui
ouais,
est
c'est
complètement
ça.
À l'inverse de la fosse mobile.
À l'inverse.
À l'inverse. Oh. Bon.
OK, Alain,
c'est tout. Merci beaucoup, Alain.
Je pense qu'on est fatigué là.
Ça me fait plaisir, les
merci.
Gars.
Merci. Hey, salut, à très bientôt.
Bonne journée, merci.
Bye. Salut, Matt.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Antoine, terminons l'émission avec quelques questions des auditeurs. On a Maxime qui nous dit qu'il s'est procuré des pneus neufs en ligne et il pensait avoir conclu une bonne affaire. Or, il mentionne qu'aucun garage n'accepte de les installer sur sa voiture. Est-ce une pratique répandue et quelle alternative s'offre à lui?
Bon, vous n'êtes pas chanceux s'il n'y a aucun garage qui veut les installer, mais il faut comprendre ceci. Lorsqu'on achète des pneus sur une plateforme comme Pneus à Rabais ou comme sur Tire Link aux États-Unis, ou Tire Rack, pardon, évidemment, on a l'impression de payer moins cher pour nos pneus que si on les achète chez un marchand. Sauf qu'un marchand va vous vendre les pneus en incluant souvent l'installation ou en vous proposant une offre alléchante d'installation pour les pneus. C'est un package deal qu'on vous fait. Fait qu'au final, si vous achetez des pneus sur une plateforme numérique et que vous les faites livrer à la maison, que vous payez dans certains cas du dédouanage parce que les pneus sont achetés aux États-Unis, après ça, vous allez chez un garage indépendant pour vous les faire installer. Lui, ben, n'a pas vendu le pneu, donc là, il ne chargera pas nécessairement le même prix pour l'installation que si vous aviez acheté les pneus sur place. Ben, au final, ça va peut-être vous revenir au même prix. Alors, ça vaut la peine de magasiner adéquatement avant de passer par des plateformes numériques. Souvent, l'avantage d'une plateforme numérique, c'est que les pneus sont disponibles. Ils ont un pouvoir de
des inventaires, là. Ouais.
Parce que eux, ils n'ont pas de gros inventeurs. Ils achètent à prix de gros un peu partout et vous les revendent. Donc, c'est un peu ça la stratégie. Donc, si vous avez un pneu que vous ciblez, là, ça peut peut-être être intéressant. Mais moi, je continuerai à magasiner de votre côté parce que là, bon, on est peut-être dans ce qu'on dit le rush des pneus.
Mais ça tire à sa fin, là.
Mais là, ça tire à sa fin. Alors, je pense que vous pourriez trouver un garage qui, si vous voulez un petit truc, là, enlever les étiquettes sur les pneus. Bon, et puis mettez ça dans la boîte du camion ou dans la voiture, puis allez les faire installer. Je peux pas croire qu'il y a personne qui va vous le faire, là. C'est juste que, effectivement, un pneu neuf, quand ça arrive, ben où vous les avez pris? Ah, ben je l'ai pris sur telle plateforme. OK, ben le marchand est moins...
C'est moins payant pour lui, là.
C'est pas juste que c'est moins payant, c'est
moins
que
intéressant.
C'est de la compétition directe.
Ouais, ouais, ouais.
C'est de la compétition directe.
Ouais. On a Claudine qui nous mentionne qu'elle a possédé deux Nissan Leaf neufs par le passé, une 2014 et une 2017. Elle possède présentement une Chevrolet Volt et étant donné que les 180 km d'autonomie de sa Leaf la restreignaient dans ses déplacements. Elle est une mère monoparentale de deux enfants. Elle a de nombreux trajets hebdomadaires à effectuer. Elle pense changer sa Volt qui nécessite d'importantes réparations. Quel véhicule lui conviendrait le mieux? Elle est ouverte à opter pour un véhicule qui serait hybride rechargeable ou même 100% électrique si l'autonomie était convenable. Elle désire acheter et conserver pour quelques années.
Bien, je pense qu'une Bolt serait la meilleure solution. Mm-hmm. Une Bolt, c'est une voiture... Bon, évidemment, il faut réussir à mettre la main dessus, là, ce qui n'est pas nécessairement évident par les temps qui courent. Mais la Bolt, vendue à 30 000 $, à un peu moins de 30 000 $ avant taxe, incluant les crédits gouvernementaux, ça peut être une voiture financièrement très intéressante. On sait qu'elle est fiable, on sait qu'elle est efficace. Il y a de la place pour des enfants. C'est pas le véhicule le plus spacieux au monde, mais il y a de la place pour des enfants. Là, évidemment, vous pourriez monter en gamme puis décider d'aller vers un VUS un peu plus gros. Vous pourriez aussi opter pour la Bolt EUV, mais croyez-moi, il n'y a pas bien plus de place là-dedans que dans
une
Bolt EV.
C'est plus l'équipement qu'on
trouve. C'est plus l'équipement puis le look. Mais s'en viendront prochainement des VUS électriques qui, eux, seront capables de vous offrir l'autonomie que vous souhaitez avoir et peut-être un peu plus d'espace. Je pense au Nissan Ariya. Vous pouvez considérer le Volkswagen ID.4 aussi, mais il n'y en a pas.
Un jour où les carnets se réouvriront.
Bon, c'est ça. Fait que le problème est là, c'est la disponibilité des véhicules. Alors, mais en ce qui me concerne, la meilleure valeur sur le marché, ça reste encore une Bolt.
Merci beaucoup, Antoine. À la semaine prochaine.
Cube Radio.